Radio Spirale. Depuis les années 90, l'économie est devenue une idéologie dominante qui a fait déborder la sphère de la production dans des champs qui en étaient autrefois étrangers, comme le savoir, la culture ou les relations sociales. C'est pour tenter de comprendre ce changement d'épistémé qu'Éric Méchoulan s'est intéressé à la notion de travail immatériel, un concept fort, admirablement présenté dans cet entretien qu'il donnait à Jean-François Bourgeot en novembre 2011.
Certaines coïncidences donnent à penser. Il y a de cela quelques années, apparaissaient de manière simultanée sur RDI, le réseau de l'information, deux segments appelés à donner au flux incessant des manchettes des niches spécialisées, RDI Santé et RDI Économie. Ce faisant, on annonçait discrètement deux pôles qui allaient être appelés à se qualifier mutuellement et à se répondre au sein d'un chiasme dont nous pouvons mesurer l'insistance jour après jour. D'une part, la gestion économique de la santé assure que toutes les questions liées au bien-être du corps sont susceptibles d'être traitées selon le modèle de la rentabilité économique. Obésité croissante comme source d'inquiétude nationale pour les coûts hospitaliers qu'elle laisse présager dans les pays développés. Rentabilité variable des services d'urgence médicale, cotée selon leur efficacité. Campagne de sensibilisation nutritive, conçue comme des investissements à long terme dans le système de santé publique, etc. D'autre part, à ce souci répond trop bien une perpétuelle gestion médicale de l'économie, comme si nous étions conviés, jour après jour, au chevet d'un super sujet qui aurait pour nom l'économie et qui serait susceptible d'aller bien, d'aller mal, de connaître des hausses, des baisses, des crises traumatiques, des convalescences, des reprises, voire des dépressions, etc. Toute formule qui laisse l'impression que les bulletins économiques sont l'équivalent des séances agoniques où le commun des mortels suit l'électrocardiogramme d'une entité, l'économie, qui ne manque pas de médecins, même si, comme la sphère célèbre de Blaise Pascal, elle n'existe nulle part et partout à la fois. Mais justement, qu'entend-on aujourd'hui par le terme d'économie? Comment analyser le discours de ceux qui ont pour profession d'analyser le système économique lui-même? Quels intérêts sont en jeu lorsque, selon un renversement de l'auteur avec lequel je vais m'entretenir aujourd'hui, Éric Méchoulan, la vision économique du monde devient monde de l'économie? C'est à ce travail de pensée et d'interprétation que s'est livré Éric Méchoulan dans un essai qui vient de paraître, « La crise du discours économique, travail immatériel et émancipation ». Donc, Éric, bonjour.
Bonjour.
Peut-être la première question, parce qu'elle va se poser pour tous ceux d'entre les auditeurs qui connaissent déjà ce que vous avez écrit. Comment un professeur de littérature à l'Université de Montréal, au département d'études françaises, en vient-il à s'intéresser au monde de l'économie au point d'écrire un essai qui lui est entièrement consacré?
Oui, il y a dès le départ une certaine non-légitimité à écrire un type de travail, de réflexion de ce genre, alors qu'on n'est pas du tout spécialiste d'économie. Ce qui m'y a conduit, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que, exactement ce que vous venez de signaler, nous sommes dans un univers qui semble tellement tourné sur le monde de l'économie qu'on a besoin, je crois, d'avoir un peu des outils pour décrypter, pas simplement comment se porte l'économie, mais comment les signes dont on nous rebat les oreilles ou que beaucoup essayent de déchiffrer, comment ces signes sont construits. Tout langage, toute science, a fortiori, est le résultat d'une certaine élaboration conceptuelle. Et ces concepts, et il s'agit un petit peu de voir d'où ils sortent et à quoi ils servent exactement. Un deuxième aspect, pour expliquer pourquoi j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est que un professeur de littérature, quelqu'un qui s'intéresse à la littérature, aux arts en général, ne peut pas manquer de s'interroger aussi sur des questions d'ordre esthétique, à la fois de théorie esthétique, mais aussi peut-être de l'histoire de l'esthétique. Et travaillant un petit peu sur, en particulier, la naissance de l'esthétique, grosso modo au XVIIIe siècle, en tant que champ de savoir, en tant que discipline, L'esthétique, bien sûr, parle de l'expérience de l'œuvre d'art, mais elle parle aussi beaucoup du jugement de goût, donc, quelque part, de ce que c'est que la valeur. Or, la valeur, c'est également au centre de la théorie économique, et comme par hasard, j'avais été très frappé par ce parallèle qui, à un certain niveau, bon, un peu contingent, mais néanmoins me semble symptomatiquement intéressant le fait que le champ de savoir de l'esthétique apparaît à peu près au même moment où le champ de savoir que nous avons baptisé économie ou économie politique apparaît lui aussi, donc quelque part autour des années 1750. Et ces deux champs de savoir qui s'occupent de la valeur ont, je trouve, beaucoup à faire l'un avec l'autre, en fin de compte. Et donc c'est cela qui m'a conduit à essayer de voir un petit peu ce qu'il en était de ce discours économique, également en rapport avec le discours esthétique.
Mais on va revenir plus en détail sur la configuration historique à laquelle vous attardez dans la constitution des champs dont vous avez parlé, mais quand même peut-être la première chose qui va frapper un éventuel lecteur, c'est le sous-titre de votre livre, donc « Travail immatériel », qui s'oppose, je suppose, à « Travail matériel » quand même. Est-ce que vous pourriez quand même définir rapidement qu'est-ce qu'on entend par « travail immatériel » C'est une formule quand même qu'on entend très souvent dans les environs de l'économie de la connaissance, l'économie du savoir. Peut-être trop souvent d'ailleurs pour qu'on s'intéresse vraiment à savoir qu'est-ce que ça représente, d'où vient-elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le travail immatériel en somme?
Oui, c'est une notion importante et exactement comme vous le suggérez, on en parle beaucoup sans savoir toujours exactement ce que cela recouvre. Et en général, quand on en parle, c'est toujours de manière très valorisante. Le travail matériel, ça serait très très bien. Et quelque part, le travail matériel, probablement un peu moins digne de la qualité que l'on attendrait de ces productions économiques. Le travail matériel s'oppose au travail matériel, un peu comme la production de marchandises, donc d'objets finis que nous connaissons, une table, une chaise, le micro dans lequel je suis en train de parler. Tout cela, il faut qu'il y ait une industrie et pour cette industrie, des travailleurs qui arrivent à produire ces objets ou ces marchandises. On est là donc dans une conception très traditionnelle, classique, de ce qu'on appelle l'économie, centrée sur un type de travail qui est la production de marchandises. Le travail matériel, comme le nom l'indique, c'est ce qui n'est pas directement en train de produire une chose, un objet du monde, une marchandise quelconque, mais qui néanmoins produit quelque chose d'un peu mystérieux, probablement, un échange, une réflexion, un savoir, qui sont autant d'éléments tout à fait importants, bien sûr, mais qui ne rentrent pas dans ce type de production de marchandises comme telle, qui même peut parfois s'évanouir dans l'instant même de sa performance, à la différence du produit fini ou de la marchandise qui est là pour durer au moins un certain temps, jusqu'à ce que ça s'use et qu'on doive le remplacer. Mais le propre du travail matériel, bien souvent, c'est, il n'y a qu'à penser aux relations de service, lorsqu'on entre dans un café et qu'on prend un verre de vin ou une bière, le type de production économique qui a été véritablement induite par celui qui travaille, le serveur ou la serveuse, est bien sûr tout à fait immatériel. Il peut y avoir éventuellement un sourire, un petit mot, une amabilité qui va peut-être permettre que le pourboire soit un peu plus élevé qu'il ne l'eût été s'il n'y avait pas eu cette relation-là. Mais ça fait partie de ce type d'échange-là, de s'évanouir, bien sûr, dans le moment même où il est performé. Et une fois que j'aurai bu mon vin, ma bière ou mon café, c'est terminé. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une transaction économique et qu'il faut arriver à la quantifier, la penser. Et ce n'est pas simplement le prix du café comme tel. Ça en fait partie. Ça n'est pas seulement non plus le prix de la tasse qui est utilisée. C'est aussi ce prix d'un certain travail qui a été tout à coup fourni par le travailleur ou la travailleuse en question et qu'il faut arriver à quantifier. Or, ce n'est pas du tout évident d'arriver à quantifier justement ce type de travail-là.
Parce que vous dites dans votre livre quand même, c'est que, bon, sous couvert d'une révolution du travail immatériel, en fait, c'est à quoi l'on assiste actuellement, c'est plutôt comme deux systèmes parallèles, parce qu'évidemment, toute une partie du monde continue de fonctionner en majorité sur une économie matérielle. Il n'y a qu'à penser à l'Extrême-Orient qui recueille souvent des usines, qui déplace évidemment leur atelier de production là-bas. L'objet comme tel de votre livre concerne plus finalement les discours souvent euphoriques qui se sont axés sur une révolution économique globale fondée sur le travail immatériel, parce qu'évidemment il y a des vendeurs chinois qui vous vendent des cafés aussi, mais il reste que là, ce qui change plus ou moins, c'est qu'on aurait tendance à mettre l'économie de secteur tertiaire au centre d'une économie des pays développés. Si je ne me trompe pas, c'est bien là-dessus évidemment que ça porte votre travail.
Oui, parce que ce qui est quand même frappant dans le discours, en effet très euphorique, surtout dans les années 90, début 2000, après la série des crises que nous avons connues ont rendu le discours manifestement beaucoup, beaucoup moins euphorique. Mais dans l'euphorie sur ce qu'on appelait la nouvelle économie dans les années 90 et encore au début des années 2000, On incluait bien sûr cette valeur nouvelle qu'on trouvait au travail immatériel, s'y adjoignait dans une certaine mesure les nouvelles technologies sur lesquelles là aussi on investissait beaucoup dans l'imaginaire collectif. Et c'est un petit peu comme si les divisions que les économistes ont essayé de mettre au point pour concevoir les différences de secteurs entre primaire, secondaire et tertiaire, puisque vous parliez du secteur tertiaire. Ça correspond grosso modo, primaire, disons, le secteur agricole, secondaire, la production des marchandises, donc tout le secteur industriel dont je parlais il y a un instant, et tertiaire. Bah, tertiaire, c'est très intéressant, parce qu'en fait, tertiaire, c'est tout le reste, ce qui veut dire n'importe quoi. Un avocat, comme une femme de ménage, comme un prêtre, comme un homme politique, tout ça, ça fait partie du secteur tertiaire. Et on voit bien que la différence de type de travail, de forme de relation, de salaire, de valorisation symbolique et sociale sont absolument différents et ne recouvrent pas du tout les mêmes objets. Donc on a fait un peu comme si... de cette division, qui est simplement une division conceptuelle pour que des économistes essayent de s'y retrouver, c'est comme si on avait construit une histoire à partir de cette division, comme si on passait en effet du monde agricole très très ancien et très traditionnel à un monde industriel, révolution industrielle de la fin du 18e, début du 19e siècle, et qu'aujourd'hui on serait justement dans cette espèce de révolution grâce au secteur tertiaire. Vaste illusion. Il n'y a pas plus de révolution qu'autre chose, mais dont on voit bien qu'elle est en partie induite par le dispositif conceptuel lui-même. C'est ce genre de choses qui m'intéresse, sur lequel j'essaye d'attirer l'attention. Comment finalement des divisions conceptuelles en viennent à permettre à certains, en tout cas, d'écrire ou de réécrire l'histoire d'une façon qui me paraît quand même bien souvent assez abusive.
Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté de quantifier le travail, par exemple, de la serveuse qui vous remet un café, dont le geste s'évanouit au moment où elle vous le remet. C'est un problème sur lequel vous revenez aussi beaucoup, à savoir qu'on assiste justement dans la dite révolution du travail matériel à un problème de capital, dans le fond, parce que la compagnie ne vaut plus seulement pour son capital matériel, mais vaut aussi pour une extension du domaine du capital, pour reprendre les termes de Houellebecq. Là, on commence à parler de capital humain, capital social, capital culturel. On peut même, si on rentre dans des concepts comme l'IBM, par exemple, l'indice de bonheur mondial, le bonheur lui-même devient capitalisable, finalement. Donc là, on a l'impression, finalement, que c'est un peu à double tranchant, parce qu'on peut se réjouir que l'économie s'intéresse à des choses dites immatérielles, abstraites, qui dépassent simplement des choses comme le PIB, par exemple. Mais en même temps, l'autre côté de la médaille, c'est que tout ou presque devient capitalisable à ce moment-là. Et puis, c'est un problème qui se pose, que vous étudiez, parce que le travailleur type de l'économie matérielle, le pigiste, par exemple, est quelqu'un qui vend sa personnalité, finalement. Donc, le capital devient de deux natures. Et puis, qu'est-ce que ça implique justement qu'à ce moment-là, le capital ait eu une extension, ne serait-ce que sur le plan des compléments grammaticaux, là, on commence à parler de choses qui sont capitalisables, qui ne l'étaient pas du tout auparavant pour une compagnie, par exemple.
Oui, c'est ça. Ça engendre énormément de problèmes. Et là, il y a beaucoup de choses que vous avez mentionnées qui sont très complexes. Si j'essaie d'en prendre simplement quelques-unes au moins, le PIB est assez intéressant. Aujourd'hui, on entend parler pratiquement que de la dette que les nations ont contractée. Bien souvent, on ne sait même pas une dette envers qui, mais laissons ça de côté pour le moment. C'est une dette que l'on voit régulièrement calculée en termes de pourcentage. Pourcentage de quoi ? Pourcentage, en général, du PIB. Le PIB, c'est ce qu'une une nation est censée produire sur un temps précis, une année. On peut changer le facteur temps, c'est pas très très important en soi. Mais qu'est-ce que c'est que le PIB ? Quand est-ce qu'il a été créé ? Qu'est-ce que ça calcule exactement ? C'est en fait un indice qui a été mis au point plutôt après la Seconde Guerre mondiale. Et la base, c'était les flux de marchandises. On calcule combien de marchandises sont produites. C'est-à-dire qu'on se fonde sur ce qui était l'évidence au milieu du XXe siècle, encore pendant quelques décennies, sur le secteur industriel, sur le travail matériel dont je parlais tout à l'heure, ou ce que, dans la tradition de l'économie politique classique, on appelle le travail productif. Donc on produit. Et c'est cette production que l'on calcule, et le PIB est censé rendre compte de cela. Si ce n'est que ce qui est assez fascinant, c'est que les économistes voient bien comment on peut calculer ça, peuvent aussi essayer de voir quel est le taux de croissance de la richesse d'une nation. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent jamais, et depuis très longtemps, presque depuis le début, au moment où on a créé le PIB, ils n'arrivent jamais à mettre en rapport strict le PIB lui-même et le taux de croissance comme tel. Il y a ce qu'ils appellent un facteur résiduel. Ça ne tombe jamais juste. Alors quand ça ne tombe pas juste pour quelques décimales, c'est pas très important. Mais comme il se trouve qu'en fait, ça ne tombe pas juste sur des proportions très conséquentes, 20%, 50% parfois, on commence à se demander quel est l'intérêt du PIB exactement. Et c'est quelque chose que certains économistes engagent tout à fait à revisiter et à reconcevoir de fond en comble. Mais lorsqu'on parle donc de la dette et qu'on dit bah, c'est un certain pourcentage du PIB, on est en train de parler de quelque chose qui se fonde sur un type de mesure dont on ne sait pas très très bien ce que ça mesure. Et c'est ce genre de flottement qui fait en sorte que la plupart des choses qui sont dites actuellement sur la dette sont très égarantes parce qu'on ne se rend pas du tout compte de ce dont on est véritablement en train de parler. Il suffit qu'on agite l'épouvantail PIB ou le fanal PIB pour croire qu'on a produit quelque chose comme un savoir, mais en fait on en est très très loin. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième sur le capital, et en effet, l'extension du domaine du capital, c'est amusant d'essayer de reprendre le titre de Houellebecq. C'est vrai qu'à partir des années 60, on a commencé à imaginer quelque chose qu'on appelait le capital humain. C'est un grand économiste, Gary Becker, qui a imaginé cela, qui a eu le prix Nobel depuis. Et le capital humain, c'est en fait, tout ce que nous apprenons à l'université, par exemple, sert à notre capital humain, mais ce qu'on a appris, en fait, depuis notre enfance dans tout le système éducatif. Donc toutes les connaissances que nous pouvons avoir acquises, mais c'est vrai, dans le système éducatif, ça peut l'être de manière parallèle avec l'expérience que nous acquérons dans les divers travaux que nous sommes amenés à faire. La personne qui sert dans un café, elle aussi, toute une série d'expériences, de connaissances qu'elle peut développer à partir de ces expériences-là. Et ça fait partie de ce capital humain. C'est cet ensemble-là qu'on commence de plus en plus à essayer de valoriser. Mais là aussi, comment est-ce qu'on calcule du capital humain ? Quel est l'instrument qui va permettre de mesurer cela ? Un diplôme ? C'est bien un diplôme, ça donne une certaine légitimité, c'est plutôt une porte d'entrée. Est-ce que ça assure de certains types de connaissances ? Pas nécessairement, ça dépend aussi où a été donné ce diplôme, quel type de cours on a suivi, et ainsi de suite. Des expériences, c'est très bien de se dire, il suffit d'avoir passé un an à être dans un café pour savoir véritablement des tas de choses sur cette forme de production, sans aucun doute. Mais on voit bien qu'il y a parfois de bons garçons de café ou des personnes qui sont plus à même d'être très à l'aise dans ce type de rapport et qui vont le faire très très bien et qui vont acquérir une expérience très valorisante et d'autres pas du tout. Et il y a comme ça des variations qui font en sorte que quel est véritablement le capital que l'on peut en tirer. Ça n'a rien de très évident à calculer. Or, c'est censé rentrer dans le type de calcul que l'on doit pouvoir faire d'une entreprise. Une entreprise, dans la comptabilité, on en vient de plus en plus à établir qu'il n'y a pas simplement ce qu'on appelle de manière classique le capital fixe, c'est-à-dire l'usine elle-même, les machines dont on se sert, etc., mais aussi l'éducation des travailleurs, des cadres, des ouvriers qui peuvent y produire un certain type de marchandises, autant d'éléments du capital humain, mais très très difficile là aussi à mesurer. On y ajoute après, à partir des années surtout 80, le capital social. Le capital social, c'est tous les réseaux, les connaissances, pour une entreprise, la liste de ses clients, qui forment ce qu'on appellerait ce capital social. Mais là encore, extrêmement difficile à mesurer. Tellement difficile que les comptables, bien souvent, parlent d'un capital invisible. Par définition, vous imaginez bien que c'est pas très facile de mettre le doigt sur un capital invisible. Or, en même temps, ils essayent de le prendre en compte parce qu'ils voient bien qu'une entreprise, ça fonctionne aussi à partir de ce type de capital. Lorsqu'une entreprise comme les chaussures Nike, cette entreprise, vous avez, avec des délocalisations, de la sous-traitance généralisée, un nombre d'employés qui est très très réduit. Et ces employés, ils sont surtout là pour travailler sur la publicité, le logo, le type de marque et le profilage en quelque sorte des chaussures. Mais matériellement, il n'y a presque rien. Et c'est pour ça que c'est une entreprise qui fait des bénéfices et qui a fait des bénéfices absolument hallucinants. Très peu d'employés, pas de capital fixe, donc on ne s'embête pas à entretenir tout ça ou à dépenser de l'argent pour ça. Tout ce qu'on a, ce sont des gens qui réfléchissent, qui imaginent, qui dessinent, qui vendent par la publicité, mais c'est tout, grosso modo. Et donc, peu d'employés, beaucoup de ventes, sous-traitance généralisée, si possible dans des pays où le prix du travail est très réduit, et on gagne sur tous les tableaux. Mais ça veut dire que ce qui compte dans cette entreprise, c'est surtout le capital immatériel de l'humain et du social. Donc on voit comment ces capitaux sont très importants et qu'en même temps, on ne sait pas exactement quoi en faire.
Mais si on fait un effet de glissement finalement, parce que bon, les compagnies elles-mêmes sont évaluées à partir des instruments de mesure problématiques dont vous parlez, mais le travailleur lui-même qui comparait devant la compagnie pour essayer de l'intégrer, plus finalement la compagnie elle-même est envisagée à partir de ces types de capitaux-là, plus l'individu lui-même, il se conçoit comme une entreprise, a tendance à évaluer ce qu'il est à partir de sa capacité à présenter devant l'employeur un capital humain élevé, d'où la question de l'éducation qui est centrale, un capital social, ce qui peut être très paradoxal parce que le capital social peut se renverser contre l'employeur. Les cas de réseaux sociaux, finalement, qui sont consultés par l'employeur avant qu'on soit engagé sont légion quand même. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que, finalement, ces modes de capture-là, qui sont des instruments de mesure, ne font pas en sorte que... Parce que c'est plus ou moins ce que vous inférez dans votre livre à un certain moment. L'ancien travailleur Fordiste, qui travaillait comme sur une ligne de montage, par exemple, était aliéné parce qu'il y a une bonne partie de lui qui n'était pas sollicité par le geste qu'il posait sur la ligne de montage, alors que le nouveau travailleur de type immatériel, si on veut garder le vocabulaire, est aliéné par le seul fait qu'il est constamment en train
de se vendre en tant qu'entreprise, finalement. Sa personnalité humaine devient la source d'aliénation, si j'ai bien suivi.
Oui, tout à fait. Mais il me semble que l'euphorie dont nous parlions tout à l'heure à propos de la nouvelle économie a eu tendance à valoriser le nouveau type de travail dont nous parlons et la valorisation du capital humain et du capital social comme des sortes de manières de reconnaître les qualités humaines, intrinsèques, singulières de chaque personne et que ça suffisait pour sortir du vaste univers de l'aliénation. Pas du tout. On en est très très loin et ce n'est plus la même aliénation. Elle est peut-être encore pire que la précédente dans une certaine mesure, mais il faut voir exactement et être prudent sur ces éléments-là. Mais en même temps, il y a toujours aliénation. Le propre du travailleur à la chaîne, c'est en effet d'être dépossédé de son propre corps, de son propre esprit, dans une certaine mesure, de sa propre capacité à produire des objets dans le monde, à mesure où il se contente de visser quelques écrous ou faufiler tel élément, etc., utiliser tel type d'outil pour tel type de fonction, point, sans voir la globalité du travail véritablement fini, même s'il peut avoir accès à la marchandise à la fin. Parfois même, certains ouvriers ont pu développer une certaine fierté d'entreprise, une fierté du travail qui a été fait. Néanmoins, il y a quand même un effet d'aliénation. Mais au moins, dans ce registre-là, le travailleur pouvait, une fois que qu'il avait fini sa journée, épuisé certainement, probablement assez abattu par la répétitivité des gestes, pouvait au moins faire autre chose et penser à autre chose, sortir de cet univers, ou en tout cas essayer d'en sortir. Ça n'est plus vrai, justement, pour le type de travailleur immatériel, dans la mesure où, si le capital humain et le capital social deviennent précisément la manière pour ces travailleurs-là de se valoriser. Et on sait bien que, vu l'étendue du chômage actuel, il y a sans arrêt besoin d'aller chercher des types de qualifications, des qualités, des connaissances encore plus larges, plus vastes, plus inattendues parfois, que ce ne l'était autrefois. Du coup, chaque fois que on va voir un film, qu'on lit un livre, qu'on lit un journal, qu'on écoute la radio, qu'on est sur le web en train de surfer, chaque fois, on s'enrichit. On s'enrichit pour soi. Mais on s'enrichit aussi parce que il sait quelque chose qui devient, quelque part, monnayable. Et même qui doit l'être. Autrement dit, là où l'ouvrier vendait sa force de travail, mais au moins pouvait essayer de faire autre chose après. Ce que le travailleur immatériel doit faire désormais, c'est vendre ce qu'il est lui-même. C'est se vendre dans toutes ses qualités, dans toutes ses connaissances, dans tout son réseau social. Et c'est cet ensemble-là qui devient le lieu d'un investissement tout à fait fondamental. D'où l'énorme essor de ce qu'on appelle depuis les ressources humaines. Le terme même est assez intéressant, le fait de trouver dans l'humain justement une ressource. Ça va tout à fait dans le capital humain dont on parlait. Donc avant, on avait ce qu'on appelait la direction du personnel. C'est donc, on voit bien la différence entre un directeur de personnel et un directeur des ressources humaines. Le vocabulaire est extraordinairement évocateur de ce point de vue-là. Et pour le directeur des ressources humaines, ce qu'il faut, c'est favoriser, non pas simplement pour chaque employé, le fait qu'il soit employable par l'entreprise, mais on attend de chaque employé qu'il, comme on le dit, je ne fais que citer certains éléments des textes pour les directeurs des ressources humaines, favoriser son employabilité. C'est absolument horrible à entendre comme néologisme, mais néanmoins, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire que chacun doit non seulement montrer qu'il est un bon travailleur, mais montrer qu'il est sans arrêt lui-même en train de se ressourcer pour montrer toujours plus qu'il est employable. Presque légitimer le fait que Il a l'extraordinaire chance d'être employé par l'entreprise qui lui donne ce travail. Donc on en vient à une sorte de pression absolument de plus en plus hallucinante, et c'est là où l'aliénation est, est vraiment parfois un peu effrayante, parce que chaque chose que nous faisons peut passer au profit de l'entreprise, peut-être doit y passer, et chaque cadre, et ça se sent beaucoup dans certains types d'entreprises où la pression sur les cadres est très forte, c'est pas du tout un hasard si on a vu le taux de suicide sur les lieux du travail augmenter de manière assez hallucinante. Et je crois que ce qui est très symbolique et très dramatique, c'est justement qu'en général, ces suicides se fassent sur le lieu du travail. C'est très symptomatique, c'est pas du tout à l'écart, loin, par désespoir, pour s'éloigner de tout ça. C'est vraiment le caractère insupportable du fait qu'on doive se projeter, se produire tout entier, soi-même, dans l'emploi qui est le nôtre.
Oui, parce que l'autre versant, en fait... beaucoup plus sombre de la nécessité d'acquérir un capital qui, par définition, est infini, parce que s'il n'y a plus de définition stricte entre le temps de travail et le temps qui est en excès, à ce moment-là, tout devient du temps de travail, des degrés divers. Et puis, ce qui se joue notamment là-dedans, c'est la question de l'accessibilité aussi du travailleur. C'est ce que dit plus ou moins Francis Jaurès-Guibéry dans un texte qui s'appelle « Société de l'information et déconnexion ». C'est le luxe maintenant qu'on acquiert dans le travail immatériel, c'est la capacité d'être déconnecté, justement. Alors que le travailleur en bas de la chaîne, selon lui, n'a pas ce luxe-là de déconnecter. Il doit être disponible, finalement, constamment, de plus en plus, justement. Ce qui peut contribuer à accroître, évidemment, la pression, l'aliénation qui vient avec. Dans ce qu'il écrit, c'est ceci. Il y a d'un côté ceux qui ont le pouvoir de se déconnecter et donc d'imposer aux autres leur relative, si répondeur, inaccessibilité, et de l'autre ceux qui ne l'ont pas. De côté ceux qui ont le pouvoir d'imposer aux autres une disponibilité d'écoute permanente, et de l'autre ceux qui doivent se plier à cette volonté. D'un côté ceux qui ont le pouvoir de se débrancher, et de l'autre ceux qui ont le devoir de rester connectés. Parmi les branchés, les nouveaux pauvres sont ceux qui vivent dans l'obligation de répondre immédiatement, et qui ne peuvent donc pas échapper à la situation de vivre dans une sorte d'interpellation continue, et les nouveaux riches sont ceux qui ont la possibilité de filtrer, et donc d'instaurer de la distance vis-à-vis de cette même interpellation. Qu'est-ce que vous pensez d'une analyse comme celle-là, par exemple?
Oui, ben, nous sommes dans une économie de l'attention, et capter l'attention, c'est de l'argent. On le voit à tous les niveaux. Il faut avoir un accès aux individus et pour arriver à tenir leur attention pour vendre des marchandises, des services, etc. Cette attention, elle suppose bien sûr du coup que pour les clients qu'on l'on cherche, il faille les avoir presque à flux tendu, sans arrêt. Mais c'est vrai aussi pour les travailleurs eux-mêmes. Et puisque, comme on le disait il y a un instant, capital humain et capital social font désormais partie de ce registre, que la pression exercée par le chômage grandissant dans les sociétés occidentales fait en sorte qu'on ne peut plus se permettre de se déconnecter, de se retirer un petit peu de ce jeu-là, il devient évident qu'il y a une pression constante, et vraiment constante, sur les travailleurs dans ce sens-là. Le propre de celui qui possédait des richesses, mettons au XVIIIe siècle, au début des manufactures, qu'est-ce qu'on achète lorsqu'on achète une marchandise ? On achète du temps, on achète le temps que quelqu'un d'autre a pris pour produire cette marchandise tant que nous pouvons disposer pour d'autres choses. Et si nous avons la capacité d'acheter tout ce qui nous est nécessaire pour la vie quotidienne et même plus, et bien à ce moment-là, le temps que nous n'avons pas besoin d'investir dans le fait d'aller nous-mêmes planter nos choux, récolter ceci, aller à la fontaine prendre notre eau, etc., tout ce temps-là, nous pouvons nous en servir pour faire tout à fait autre chose, prendre du plaisir à des phénomènes esthétiques, lire de grands et beaux romans, voir des œuvres d'art, en acheter, etc. Donc ce qu'on achète, c'est fondamentalement du temps. C'est pareil dans une certaine mesure aujourd'hui. Ceux qui se déconnectent sont justement ceux qui peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont suffisamment de richesses pour acheter le temps que les autres sont obligés, au contraire, d'utiliser pour s'enrichir eux-mêmes dans des savoirs, des connaissances, des expériences, pour les mettre au service d'une entreprise ou pour devoir travailler dans telle ou telle boîte. Et ce sont ces différences de gestion de temps qui sont tout à fait capitales, en un autre sens du terme capital.
Oui, parce que vous dites, c'est une superbe citation de Alice au Pays des Merveilles. Bon, c'est la Reine Rouge qui dit « Alice, pour essayer, pour courir très vite, tu dois demeurer sur place ». On voit très bien finalement ce que vous voulez dire, parce que c'est plus ou moins la définition de ce que vous venez d'évoquer à ce moment-ci, c'est-à-dire une espèce de course perpétuelle un peu folle à l'acquisition de capital qui, étant infinie, la course effectivement est insensée parce qu'on ne peut jamais en terminer. Mais l'inverse finalement de cette formule-là, la Reine Rouge, ça serait pour aller très vite, ou plutôt à l'inverse, excusez-moi. Donc pour rester immobile, il faut courir très vite finalement. Ou alors à l'inverse, pour courir très vite, il faut rester immobile. Donc ça pose la question évidemment de la capacité pour le travailleur éventuel, quel que soit le niveau où il évolue, de rester immobile justement, ce qui par définition est le temps de pensée, de réflexion, le temps où on arrête, le flux tendu justement. Et à ce moment-ci, là, il y aurait la possibilité éventuellement de mettre un terme pour un court moment, tout le moins, dans ce que Deleuze appelle une vacuole protectrice de temps, là, de libérer à tout le moins d'autres interprétations, d'autres compréhensions, parce que c'est plus ou moins là-dessus qu'on dirige dans votre livre, là, vers la fin. Donc, à ce moment-ci, la question de l'otium devient très problématique, parce que si ceux qui ont le pouvoir de se déconnecter, ce sont les riches, comment ceux qui n'ont pas ce pouvoir-là peuvent-ils se déconnecter, finalement?
Oui, bah, il faut bien reconnaître que le temps est une denrée humaine extrêmement importante, que nous en consommons beaucoup, et que la variation de consommation de temps est certainement en bonne partie déterminée par le pouvoir que l'on peut exercer, soit par la richesse, soit par un pouvoir d'ordre politique ou sacré, position sociale, etc. Mais ce sont à chaque fois des sortes de monopoles de temps qui sont ainsi exploités. Et il est clair que pour ceux qui sont hélas les plus aliénés, ce dont ils sont privés, c'est en bonne partie de cela, de temps. La société des loisirs dont on parlait il y a de nombreuses décennies sur un mode assez utopique, on voit un petit peu ce qu'elle est devenue. Le chômage, encore une fois, qui est quand même une configuration sociale extraordinairement importante dans nos sociétés occidentales, il fonctionne à la fois comme une sorte de déperdition de temps. Les chômeurs sont voués à ne plus travailler, donc ils seraient censés ne plus disposer précisément du temps du travail lui-même, mais seraient libérés de ce fardeau du travail. On sait très bien qu'il n'en est rien. Les chômeurs non seulement travaillent à essayer de trouver du travail, mais le stress, l'angoisse, la mélancolie, voire la dépression sont autant de manières de faire travailler son cerveau, probablement de manière beaucoup plus désespérante que s'il y avait un véritable travail. Et dans la mesure où on a fait du travail une valeur sociale, symbolique, même une valeur identitaire tout à fait fondamentale dans notre société, ce qui n'est pas du tout le cas dans la plupart des sociétés qu'on a pu connaître dans l'histoire humaine, c'est quand même une valeur très récente à ce point-là qui est accordée au travail. Jadis, dans les sociétés, je ne sais pas, l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'esclave qui travaille, c'est certainement pas le citoyen. Le citoyen, c'est justement celui qui s'est libéré du travail pour pouvoir s'occuper de politique. Donc suffisamment riche pour faire cela, avec une dignité à l'intérieur de la cité, mais c'est celui qui peut faire ça. Le paysan qui travaille, qui est néanmoins un citoyen, a toujours été à Athènes, pas méprisé, mais on s'en méfie un petit peu, justement parce qu'il travaille, et qu'il est donc loin de la cité, en dehors. Il n'a pas le temps de venir. Donc le fait d'avoir donné comme cela une valeur extraordinaire au travail fait en sorte que les chômeurs sont non seulement dépossédés des outils financiers qui leur permettent de vivre ou de survivre, mais ils sont aussi dépossédés des outils symboliques dans la mesure où leur identité n'est plus justement articulée à cette valeur fondamentale qui est pour nous celle du travail. Donc la société des loisirs dont on parlait, dont on disait, c'est bien, on va pouvoir aller vers une société des loisirs. Bon, non seulement on voit qu'il n'en est absolument rien, au contraire, et que même s'il y a variété des loisirs, multiplication de ces loisirs, puisque nous parlions de capital humain et social tout à l'heure, on a bien vu que tous ces loisirs peuvent quelque part, et peut-être même doivent quelque part, servir désormais à l'alimentation de notre capital que nous allons pouvoir vendre et par lequel nous nous rendons employables aux yeux des patrons, des entrepreneurs qui en ont besoin. Ces éléments-là font en sorte que le travail comme tel n'a pas cessé d'être une aliénation, même si il prend de nouvelles figures.
Si on se dirige vers la deuxième moitié finalement de votre sous-titre, parce que bon, il y a le travail matériel évidemment, mais il y a l'émancipation. En lisant votre livre, en fait, j'ai pensé à la fameuse parabole de Kafka sur un pauvre type qui est devant la porte, gardé, puis la porte est ouverte, et puis bon, l'une des interprétations qu'on peut faire de ça, qui est celle de d'Agamben, Giorgio Agamben, tel qu'il la rapporte de notre penseur italien, dont j'oublie le nom malheureusement actuellement, c'est que l'émancipation, ce n'est pas d'ouvrir la porte, c'est de la fermer. C'est de savoir la fermer, justement. Ce qui est le problème, par ailleurs, de ceux qui sont connectés en permanence et qui doivent trouver des moyens, quand même, d'essayer de fermer certaines portes pour avoir une vie digne, quand même, une vie qui ne serait pas vouée à la capitalisation infinie de soi-même, là, sur ce mode-là, qui peut devenir complètement décervelant. Donc, vous, à ce moment-là, à la fin, vous revenez sur l'étymologie de l'émancipation. Est-ce que vous êtes capable, finalement, rapidement, de nous dire quelle est la manière de fermer la porte, finalement, pour un travailleur typique de l'économie matérielle?
Bien, il me semble que, même si, vous l'avez bien compris, j'étais extrêmement prudent, voire critique de cette nouvelle économie, des nouvelles formes que l'économie matérielle semble produire aujourd'hui, depuis quelques décennies au moins, même s'il y a cette prudence et cette méfiance, il n'en demeure pas moins que là où un ouvrier devait vendre sa force de travail, il ne pouvait pas faire autrement que cela, même dans les cas les plus euphorisants, parfois un peu paternalistes, d'entreprise où il pouvait trouver une forme d'identité, il n'en demeurait pas moins que le travail lui-même n'était pas extraordinairement valorisant. Puisque désormais on insiste sur l'éducation, sur la connaissance, sur une certaine virtuosité de soi-même, les singularités, des styles qui permettraient à chacun de non seulement de se faire voir, de donner accès aux autres à sa propre personnalité pour faire en sorte d'avoir une position sociale et une vertu économique particulière. Tous ces éléments-là, on peut les prendre sous un angle extraordinairement positif. On peut y voir quelque chose comme une forme d'émancipation, une manière de reconnaître non seulement les styles et les singularités de chacun, ce qui serait déjà pas si mal, mais aussi ces ouvertures, ces richesses que chacun peut apporter, qu'elles soient de l'expérience la plus quotidienne jusqu'aux savoirs les plus élaborés. Tous ces éléments qui font en effet la richesse des individus, si on les développe et qu'ils peuvent servir à une entreprise commune, à la construction d'une véritable communauté, pourquoi pas ? Ça serait évidemment tout à fait remarquable et ça nous conduirait dans un monde qui serait certainement nettement plus intéressant et vivable que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ça n'a rien d'évident pour autant. Ça n'a absolument rien d'évident. Ce qu'on voit, puisque nous sommes quand même dans une certaine crise de l'accessibilité à l'université, pour prendre cet exemple assez précis, vu les dernières manifestations qui ont émaillé les derniers jours à Montréal ou à Québec, mais aussi à Londres, à Madrid, etc. Il y a quand même une généralisation, pas forcément pour toujours exactement les mêmes raisons, mais quand même, grosso modo, il y a de la part des étudiants une inquiétude extrêmement compréhensible de leur possibilité d'avoir accès encore à un système d'éducation supérieure. On pourrait se dire, mais comment est-ce que les États ne sont pas capables de comprendre que investir dans l'éducation à partir du moment où on ne cesse de valoriser le capital humain et le capital social, c'est un vrai investissement et non pas une dépense. C'est quelque chose qui construit de la communauté, mais surtout construit des individus qui vont pouvoir être producteurs de richesses, de savoir, d'expérience, qui vont faire en sorte que la nation tout entière va progresser et que le PIB dont nous parlions tout à l'heure va croître et que ça va être super chouette. On ne peut pas ne pas penser que ces hommes politiques sont quelque part complètement idiots. C'est peut-être vrai, mais en fait, il faut quand même réaliser que ce qui est en train de se passer me semble être, en fait, de nouveau une manière de fermer certaines portes, de récupérer un monopole sur l'accessibilité à la culture, aux connaissances dans leur grande variété, aux formes de savoir comme telles, à l'éducation en général, un monopole qui va de plus en plus être réservé à une certaine élite, qui va évidemment s'auto-reproduire. L'idée générale étant que, bien sûr, il nous faut des producteurs, mais on va faire en sorte désormais que les formations soient des formations courtes, des formations débouchant immédiatement sur des professions, et non pas sur une culture large, ouverte, critique, qui puisse mobiliser, comme j'essayais de le faire dans cet ouvrage, aussi bien les ressources de l'esthétique, ou pouvoir parler de Kant, mais aussi parler d'Adam Smith, ou des manuels de comptabilité. Cette façon de pouvoir traverser des discours extrêmement variés et hétérogènes, c'est quelque chose qui va être de plus en plus compliqué, précisément parce que l'accès à la culture générale, à tous ces discours-là, va être de plus en plus mobilisé par une petite élite. Et en ce sens-là, il peut y avoir une émancipation par la valorisation des styles individuels ou des savoirs ou des expériences singulières. Mais on voit aussi que ce qui se passe en ce moment d'un point de vue politique est plutôt en train de nous amener dans la configuration inverse, hélas, qui consiste à voir en effet qu'il y a là une richesse, encore plus qu'autrefois, et que du coup, cette richesse, il faut absolument la contrôler. Et que l'élite qui, pour le moment, domine véritablement et qui a les instruments de pouvoir qui peuvent lui permettre justement de restreindre des accès, ne va absolument pas s'en priver. Et je crois que c'est un peu sur ce terrain-là qu'il faudrait essayer de porter les interrogations ou les indignations en comprenant qu'il y a des enjeux qu'on ne peut pas simplement résoudre en disant « mais c'est dans votre intérêt » à vous, hommes de pouvoir ou capitalistes, de produire des individus qui sont justement éduqués, puisque le capital humain est un capital comme tel, c'est, je crois, une manière de s'aveugler, en fait, sur les jeux de pouvoir et les monopoles qui sont en train de se mettre en place.
En fonction, vous suivez bien, ce qui est intéressant, en fait, avec la conclusion de votre essai, c'est que c'est un exercice de polémique au sens sourancière. On peut dire que la polémique, ce n'est pas A contre B, c'est A contre A. Donc, vous ne vous opposez pas à l'économie, vous opposez à une définition de l'économie. Ce n'est pas la même chose, parce que, bon, ça fait 30 ans qu'au Québec, on est pris dans un clivage stérile entre l'œuvre d'art comme marchandise et l'œuvre d'art qui n'est pas une marchandise. Et puis, bon, ça ne donne strictement rien, parce que la marchandise progresse quand même. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, si je vous suis bien, que bon, l'économie telle qu'elle peut se déployer comme faculté d'organisation, puis de manière de réagir aussi, c'est une manière de s'adapter finalement aux adaptations qu'on veut nous imposer sous couvert justement de nécessités économiques. Si je reprends par exemple mon milieu, qui est à peu près le même que le vôtre, mais dans les milieux qui ne sont pas les mêmes, comment ça se traduit par exemple dans l'enseignement collégial, c'est que les nécessités économiques normalement nous viennent d'en haut, du ministère, on nous passe ça sous forme de devis ministériels, et puis nous après, la forme finalement de liberté qui nous reste, c'est comment s'adapter finalement aux adaptations qui sont justifiées ou pseudo-justifiées par des questions, par exemple, de taux de diplomation nationaux qu'il faut déclarer, il faut rendre compétitif avec d'autres pays. Et la liberté qui nous reste, l'émancipation peut-être, c'est une adaptation au second degré comme ça. C'est-à-dire ne pas jouer le jeu de l'adaptation naturelle, nécessaire, et s'adapter en se mésadaptant finalement par rapport à ça. Mais c'est une espèce de marge qui se joue toujours en deuxième temps finalement, parce que la liberté, elle est là, mais elle n'est pas non plus immense là.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je soulignais qu'il y avait à la fois les dangers d'une forme d'aliénation encore pire que la précédente et les vertus et les possibilités offertes justement par cette insistance sur des formes d'échange et de construction de soi-même qui peuvent conduire à, en effet, exercer notre propre virtuosité et savoir comment l'exploiter au bon sens du terme. Et pour l'adaptation, il y a de la même façon deux manières de l'entendre et de la concevoir. Ça peut être en effet cette façon dont on exige de tous les travailleurs que désormais ils s'adaptent à de nouvelles conditions, et toujours nouvelles, et toujours en général pires que les précédentes. Mais la pression est telle qu'il faut s'adapter. L'employabilité dont je parlais tout à l'heure est une manière de dire « adaptez-vous sans arrêt ». Mais en même temps, on peut essayer de retourner l'adaptation, et je crois que ça fait partie à la fois de la liberté, de l'inventivité, de la richesse des individus, que d'être toujours susceptible de pouvoir prendre des éléments pour le pire ou pour le meilleur, dans leurs vertus ou dans leurs vices. Il n'y a pas quelque chose qui est intrinsèquement bon, ni quelque chose qui est intrinsèquement mauvais. Bon, il y en a peut-être, mais c'est finalement relativement marginal. La plupart des choses sont tantôt bonnes, tantôt mauvaises, et ça dépend un petit peu de la façon dont on va véritablement les produire sur la scène sociale, les échanger ou ne pas les échanger. Et l'adaptation, ce qui est très frappant, c'est, si on revient à l'étymologie même du terme d'économie, en général on insiste sur le côté oikos, donc le domestique, la maison, et nomos, c'est la loi, la répartition, la distribution. Et en insistant là-dessus, on dit bon, l'économie, c'est un peu comme si on était passé en fait de l'ordonnance de la sphère domestique vers l'ordonnance de la sphère publique. Et que la science économique, depuis le XVIIIe siècle, s'occuperait justement de cette sphère publique, mais toujours avec l'idée qu'il y a une sorte d'équivalence avec la sphère domestique, ce qui amène aujourd'hui à dire, ce qui me semble personnellement, j'ai pas vu beaucoup d'économistes qui le signalaient, mais c'est toujours une surprise pour moi, le genre de comparaison qui se fait au niveau de la dette, encore une fois, avec les ménages qui seraient endettés. Un État n'a rien à voir avec un ménage. Je suis désolé, ça se joue à des niveaux totalement différents. Le premier étudiant de macroéconomie, c'est cela. La macroéconomie ne se joue pas du tout dans les mêmes types de fonctionnement que le petit ménage dans lequel, en effet, on essaye de vivre sans être trop endetté. Un État fonctionne sur de tout autre régime, avec d'autres acquis. Et comme on l'a vu, on peut imaginer peut-être qu'un État puisse faire faillite, encore qu'on ne sache pas exactement ce que ça peut vouloir dire, mais peut-être qu'on va le voir. Peut-être qu'on va avoir des exemples tout à fait intéressants et stimulants intellectuellement, probablement assez dramatiques pour les gens qui vont le vivre. Mais en même temps, ça ne peut pas être le même type de faillite que un ménage ou même une entreprise. Il y a des enjeux qui sont très très différents. Mais simplement, on se sert de cette vieille étymologie pour faire croire que ça devrait fonctionner un peu comme ça. Mais en fait, le terme d'oikonomia a aussi des usages du point de vue rhétorique. Et aussi, ça a été récupéré par les pères de l'Église, déjà saint Paul, d'un point de vue théologique. L'oikonomia, c'est, si on voulait le traduire par un terme très courant aujourd'hui, ce serait un dispositif. C'est-à-dire une manière, justement, de s'adapter à des séries d'événements en les administrant d'une certaine façon. Donc une façon de tourner, en fait, de configurer des événements pour les faire apparaître sous un certain aspect, exactement comme un avocat, d'un point de vue rhétorique, va construire son cas, le cas juridique qu'il essaye de défendre. Il va le construire en accentuant certains éléments et en essayant de limiter la portée d'autres. Donc il configure en fait son interprétation de ce qui s'est passé. Il administre des événements pour les faire apparaître d'une certaine façon. Et c'est ça que voulait dire oikonomia. Mmh. Les pères de l'Église vont s'en servir pour désigner justement une sorte d'administration des événements. En ce sens, la notion d'adaptation peut être tout à fait récupérable, et même le terme d'économie, au sens de cette oikonomia plutôt rhétorique, peut être récupéré, justement pour dire ce qu'il nous faut, c'est non pas être aveugle, surtout pas, non pas s'illusionner sur la façon dont on nous présente certains événements, par exemple, encore une fois, les phénomènes de dette, mais essayer de voir comment on peut reconfigurer ces événements pour les réinterpréter. Mmh. Et l'économie, l'ambiguïté du terme est très porteuse. On entend par économie aussi bien les événements réels des échanges entre les individus que la science, ou pseudo-science, donc le discours, à mes yeux, qui porte sur l'économie. Eh bien, cette oikonomia, cette économie, je crois qu'on peut très bien, en effet, ne pas tomber dans des sortes d'oppositions stériles, œuvres d'art, marchandises, des choses comme ça, mais récupérer le terme, mais simplement lui faire porter un sens qui est légèrement différent, le reconfigurer pour le rendre exploitable d'une certaine façon, qui ne soit pas simplement cette espèce de science mathématique de l'économie qui m'apparaît quand même bien souvent assez abusive. On peut décrire des fonctionnements, on peut même mathématiser certains fonctionnements, mais encore faut-il essayer de revenir aux prémices de ce type de mathématisation et de voir sur quoi ils sont fondés. Bien souvent, c'est là où le scepticisme important pour toute activité scientifique devrait opérer.
Juste pour revenir rapidement sur l'adaptation, je me suis souvenu pendant que vous parliez de la devise ministérielle qu'on a reçue pour un cours qui dénombrait les tâches d'un professeur. Et il y avait encadré les étudiants, participé aux réunions. Et perdu dans ce fatras-là, il y avait l'adaptation. Il ne les avait même pas qualifiés. C'est tellement de valeur en soi que l'adaptation, c'était suffisant. Et puis ça ne voulait rien dire, évidemment, mais bon... Ça montre à quel point le terme est coté, justement, dans ce type d'économie-là.
Tout à fait.
Pour terminer quand même, parce que ce serait difficile de le passer à côté, il y a deux obsessions médiatiques qui s'accaparent les manchettes actuellement que nous entretenons aujourd'hui, donc au début du mois de novembre en 2011. Il y a évidemment la question de la dette dans la zone euro, mais il y a aussi, depuis quelques semaines, la question de occupons différentes villes, mm-hmm. Wall Street, Montréal, etc. Comment est-ce qu'on peut interpréter justement ce mouvement-là? Il y a évidemment des gens là-dedans qui sont des victimes de la délocalisation des entreprises, d'autres qui sont peut-être des victimes du type de travail immatériel qui est apparu ici. Quel type d'interprétation peut-on faire de ça qui ne retomberait pas dans les anciennes modélisations, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf qui se joue là-dedans ou si au contraire c'est beaucoup de bruit pour rien?
Je dirais pas assez de bruit. Et sûrement pas pour rien. Il y a beaucoup de choses, je trouve, intéressantes dans ce type de mouvement-là. À la fois parce qu'il réunit des individus extrêmement différents qui sont là pour manifestement pour des causes, des raisons, des motivations, des trajets personnels tout à fait variés. Et probablement aussi nation à nation. Ça être, je pense que occuper Wall Street n'a pas exactement la même configuration que ceux qui sont sur le parvis de Saint Paul à Londres ou à Madrid, etc. En France, de manière assez symptomatique, ça n'a pas beaucoup pris. Il y a eu quelques petites choses, mais très, très, très peu. Donc, ce serait aussi intéressant de voir où ça marche et pourquoi ça marche là plutôt qu'ailleurs. Mais je pense que le terme même qui a été choisi, les indignés, est assez intéressant. Il évoque à la fois un caractère, disons, de référence à une passion, la colère. L'aliénation, c'est une forme de colère. Mais une colère qui repose sur un sentiment d'injustice. Autrement dit, ce ne sont pas tellement des catégories politiques assez traditionnelles, la liberté ou l'égalité, même, pour finir, la devise française, la fraternité ou une certaine solidarité qui sont mises de l'avant, mais vraiment le rapport à la justice, qui me paraît en effet assez fondamental dans ce type de rapport-là. Jusque dans le caractère vague et polysémique du terme justice. On peut retirer beaucoup de choses. Donc, il y a, je crois, quelque chose d'assez intéressant du point de vue l'expression d'une passion, de retrouver en fait une vertu politique à la passion, et donc de produire un type de sentiment, un type d'émotion qui trouve une dignité collective, pas simplement des formes de rationalité, et surtout sans opposer justement formes de rationalité et type de passion. Je crois que le rapport que nous entretenons au pouvoir au singulier, au pouvoir au pluriel, aux formes étatiques, aux formes d'entreprises que nous connaissons, ce sont quand même des lieux où notre raison et notre passion personnelle doit s'investir. Donc en ce sens, colère est importante, et indignation comme forme publique et collective de la colère, c'est ça qu'est l'indignation, est également important. Pour renouer avec la rhétorique dont je parlais il y a un instant, classiquement, dans les formes de composition des discours rhétoriques traditionnels, le grand moment, soit au tout début, soit à la toute fin, mais le grand moment où on est au maximum de la charge à la fois rationnelle et émotive, c'est le moment de l'indignation. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire monter. Parfois, on peut commencer avec une énorme indignation et puis après égrener ce qui justifie cette indignation. Parfois, on peut faire monter la pression jusqu'au moment de la grande colère. Mais l'indignation doit toujours être là. Donc, qu'il y ait tout à coup une valorisation collective de cette indignation par des formes qui essayent d'être inventives. C'est toujours ça aussi qui est important et intéressant. C'est en quoi une action collective arrive à inventer des formes de présentation de soi, pour retrouver le terme que j'utilisais tout à l'heure, de virtuosité, d'une intelligence des phénomènes qui permet à la fois de déjouer des attentes politiques dont on sait que elles vont renouer avec des habitudes de répression ou de déplacement ou de tentatives d'escamotage bien connues. Donc il faut inventer de nouvelles formes de manifestation, d'opposition, de présentation de soi, et inventer de nouvelles formes d'opposition, de discussion, d'échange. Et ce sont, pour le mieux, si ces mouvements vraiment prennent et arrivent à produire quelque chose, pas simplement au niveau de résultats effectifs, mais au moins déjà de formes de solidarité et de positionnement de questions politiques, alors il y a quelque chose là de, me semble-t-il, tout à fait intéressant et valorisant.
Bon, ben, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je rappelle en fait le titre de votre livre, « La crise du discours économique, Travail immatériel et émancipation. C'est publié donc aux Nouveaux Essais Spirale et puis en vente depuis très peu de temps. Finalement, c'est tout frais sorti des presses. Donc, Éric Michelon, je vous remercie.
Merci à vous.